Nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure du Dojo Bar. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir Méduse.
Salut Mortal.
On est dans un nouveau Dojo Bar et cette semaine nous allons discuter dans notre première partie, on refait le monde autour d'une binouze, on va faire un petit peu de masturbation.
Oh oui, j'aime ça. Oh.
Puisqu'on va parler du dojo, la fondation du dojo US, la fondation du dojo FR, et puis on va parler un petit peu de la V7, donc on va faire un peu de d'autopromo, j'ai envie de dire.
Exactement.
De temps en temps ça fait pas de mal.
Et pour ça, on a avec nous Cyrard qui a développé la version 7. Salut Cyrard.
Salut.
Ouais, il est notre dieu à tous, il est notre grand maître à penser.
Et ce depuis au moins 1998. Et on a aussi avec nous Oscar. Salut Oscar.
Salut.
On ne présente plus puisqu'on l'avait déjà reçu la dernière fois.
Le grand maître des chiffres, le cofondateur de GameSharts. Yes, sinon, moi je
master.
Représente pour les gens qui ne suivent pas toutes les deux semaines. Honte à vous.
Honte à eux. Honte à nous. Honte à vous. Au cul. Et donc après avoir parlé du dojo en long en large, en avoir foutu partout sur nos écrans et sur les vôtres, on l'espère aussi, après une seconde pause musicale, on parlera de Rayman Legends, aussi bien de son report qui a fait beaucoup de bruit, qui fait un feuilleton fascinant, on va vous raconter tout ça vite fait, et puis on parlera aussi évidemment du mode challenge qui vient de sortir tout récemment et sur lesquels on est plusieurs au dojo, dont Oscar et moi, à être vraiment à bloc dessus comme des malades. Et donc on va commencer par un petit tour de l'actualité avant tout ça.
Comme d'habitude.
Exactement.
Alors qui c'est qui est chaud pour commencer? On avait quelques sujets d'actu sur la table, il me semble que Cyrard avait 2-3 trucs intéressants, donc...
Pas 3-2.
Qui prend?
Moi je vais commencer en parlant un petit peu de mon petit voyage. Je suis parti en voyage il y a quelques temps, aller sauver Iwata maladie mentale, enfin on en parlera plus tard. Et donc pendant que ma femme elle s'amuse à prendre des livres, c'est une sorte d'iPad mais de l'ancien temps, moi j'ai pris mon téléphone, j'ai juste pris mon téléphone et je me suis remis à un jeu auquel j'ai joué il y a quelques temps, c'est Rayman Juggle Run.
Il y a quelqu'un qui a laissé la fenêtre du bar ouverte, s'il fallait la fermer. Ouais, excuse-moi Cyrard.
Et donc ce jeu, je me suis dit je vais resetter la partie, je vais y recommencer et je me suis aperçu que je n'avais plus non pas 4 mondes mais 7 mondes de 10 niveaux et
jeu agrandi, pouvoir du Japon.
Le jeu agrandi. Et donc vu qu'on n'est pas les derniers à gueuler quand Ubi font de la merde, ce qui est pas tout à fait rare, mais voilà, je voulais féliciter cette initiative de leur part parce que c'est des mises à jour gratuites, des mises à jour avec des niveaux plutôt sympas qui sont certes repomper un peu beaucoup de Donkey Kong Country Returns. Il y a beaucoup de choses qui viennent de
dans les mécanismes, tu veux dire?
Dans les mécanismes, t'as les boulets, t'as des vaisseaux qui viennent de l'arrière-plan qui envoient des boulets sur nous. T'as pas mal de choses du niveau qui apparaissent subitement quand t'arrives, ce qui est pas là dans les premiers niveaux. T'as pas mal d'éléments, ouais. Ou des
donc,
sauts
donc en plus
sur
de faire des nouveaux niveaux, ils ont bossé quoi.
Ils ont bossé. Disons qu'ils ont acheté le jeu de rétro et puis ils se sont dit c'est cool.
Ils se sont sortis les doigts, ils ont envoyé du pâté quoi.
Ils ont sous-traité par des Chinois comme tout ce que les Chinois peuvent faire, c'est de la copie, ben voilà.
Bravo.
C'est à bout. Ouais. Bon, c'est Ubisoft Casablanca, donc qui évole des choses. C'était le passage, la petite blague sponsorisée par Jean-Marie. Et donc, c'est le fait qu'il copie sur rétro, c'est plutôt un gage de qualité finalement. Hein. Vaut mieux copier sur rétro que sur Electronic Arts ou je sais quoi. Donc finalement. J'avais 30 niveaux plutôt cool, gratuits. Je voulais saluer cette initiative, d'autant que c'était pas promis. Hein, y a pas mal de jeux,
donc...
surtout sur téléphone, qui disent vous allez avoir des nouveaux niveaux bientôt, puis ça arrive jamais.
Ouais. Et donc, t'étais au Japon, en fait, et t'as rien trouvé de mieux à foutre que de lancer Rayman, c'est ça? Si on comprend bien.
Bah, écoute. Qui va
au Japon pour lancer des jeux français. Voilà, ouais. C'est ça qui est
non,
important.
Mais, il y a 26 heures de trajet, hein, entre,
ah oui, quand même, hein.
Entre Paris et Tokyo, donc c'est pas mal de...
T'as à pied, en fait!
26 heures, c'est pas autant.
J'ai mis 26 heures pour aller de Tokyo à...
Tokyo. Alors là, t'as fait une sacrée escale.
J'ai fait 4 heures d'escale. Ouais. Je pense que les gens s'en foutent, mais bon, on peut raconter mon petit voyage, j'ai une petite hôtel assez sympa.
Sinon, t'as bouffé des trucs sympas ou pas?
Le tour de l'actu va durer 20 minutes. Voyage de Syrah.
On va passer tout le temps avec le voyage de Syrah.
Mais sachez que ce petit voyage au Japon était là pour sauver Nintendo et on en reparlera dans un article prochainement sur le site.
On compte sur toi,
c'est important.
C'est exactement.
C'est que le suspense est à son compte.
Ah oui, non, mais là on va attirer au moins 1 milliard de lecteurs supplémentaires. Hein.
Ah ouais, ça c'est clair.
Minimum,
bon, je me propose d'enchaîner avec deux petits sujets.
Avec une transition pas du tout foireuse.
Voilà. Alors le premier, si vous avez suivi un petit peu, enfin si vous surfez un peu sur le dojo.fr ou sur gamesharks.fr, vous aurez vu qu'il y a eu quelques peut-être bilans annuels qui ont été publiés, ou pas encore, Oscar, je dis de la merde.
De Nintendo, tu veux dire?
Ouais, sur Gamesharts.
Ouais, bah non, en fait,
t'es à la bourre, ok, ça va, d'accord.
C'est sur Gamekult, en fait, donc.
Ah oui, c'est juste, c'est celui, oui. On a vu Oscar se prostituer. Voilà. Il s'est prostitué. Donc, Nintendo a présenté récemment son bilan annuel, et depuis quelques temps déjà, il y a quelques documents issus des présentations des conseils d'administration qui atterrissent sur le site de Nintendo Japon. Et dedans, il y avait notamment le question-réponse qui vient de tomber aujourd'hui, dans lequel Iwata répond en fait aux questions des actionnaires sur comment est-ce qu'il compte atteindre ses objectifs financiers, sur comment le marché du dématérialisé va évoluer et tout ça. Et donc on va pas vous parler de ça maintenant, mais je voulais faire quand même mon petit coup de gueule habituel envers la presse anglophone cette fois-ci, mais c'est pas la première fois qu'ils le font, je profite du coup de l'occasion pour le relever. C'est leur tendance à prendre un document qui fait, quand on l'imprime, à peu près 7 pages à 4 en police 12, et qui se retrouve, dont ils prennent une phrase et ils en font une news le lundi, et puis demain vous aurez encore une autre phrase pour faire une autre news. Et plutôt que de prendre dans l'ensemble QA, proposer un joli truc comme par exemple d'excellents sites comme nintendojo.fr peuvent le faire, eh bien non, ils prennent une petite phrase et hop. Et donc dans la presse francophone, deux jours plus tard, on risque d'avoir peut-être d'autant d'autres une petite phrase prise et hop, c'est déjà arrivé d'ailleurs aujourd'hui sur certains sites Nintendo. Et voilà, donc c'est un petit peu dommage d'avoir...
Mais au lieu de prendre l'information à la source...
Ouais, je me suis coltiné à la lecture de ce machin dans le train juste maintenant avant d'arriver là. Et c'est quand même, il y a quand même des trucs intéressants dedans qui méritent un petit peu de se dire, bon, on publie pas tout de suite l'info, mais on prend la peine quand même d'un petit peu expliquer, contextualiser. Et voilà. Et le deuxième truc dont je voulais parler, c'est...
Attends, chaîne, toi.
Ouais, carrément. Bien,
ouais. Ouais, non, il est comme ça.
Carrément, je suis à donf, là.
Donc, il a la parole, il la lâche pas.
Voilà. Le deuxième truc dont je voulais parler, c'est les quelques petites dernières rumeurs qu'il y a eu sur la Xbox, sur la prochaine Xbox. Elle devait être présentée à l'origine il y a une petite semaine, mais finalement, la présentation a été reportée au 21 mai, à Seattle.
C'est officiel, ça?
La présentation le 21 mai?
Oui, non, ça oui, mais le fait qu'il devait la présenter avant.
Apparemment, il y a pas mal de rumeurs.
Ouais, qui coïncident.
Mais ça va être beaucoup de l'ordre de la rumeur, parce que les deux, trois petits machins que je vais dire là. Ouais. Ça permet peut-être un petit peu de cerner.
C'était une vraie info. Ouais.
Je sais pas, je lis pas Gameblog.
Si Gameblog l'a donné, c'est une vraie info. Si VGCharts le dit, c'est que c'est des vrais chiffres. C'est ça qu'il faut retenir.
Exactement.
Voilà, c'est important.
Bon, force de parler.
Je me désolé. Ah,
santé. Ben voilà.
Voilà. Parce que j'attendais que tu la fermes un peu. Attends. Pour pouvoir ouvrir ma canette là.
Ah, d'accord, merci. C'est bon, t'as qu'une seule canette, sinon j'en ai qu'une.
Je vais faire
un tour. Ok. D'autres gens ont une canette?
Moi j'ai. Je la garde pour après.
Ok. Donc le petit point sur les rumeurs de la Xbox qui devait être présentée tout récemment, qui ne sera que le 21 mai. Le 21 mai. Alors, donc Sony a présenté sa PlayStation 4 le 22 avril avec notamment la grosse fonctionnalité, on verra bien dans quelle mesure elle est grosse, si c'est comme ma bite ou si c'est comme celle de Mortel, mais
ça change pas grand chose, hein.
Au moins un tour de taille en plus, quoi. Tu vois. Donc il y avait la fonctionnalité de partage de vidéos via un bouton qui est situé sous la manette, et il y a des rumeurs qui circulent indiquant que Microsoft se dirigerait pile dans le même sens. Du coup, on se demande encore qu'est-ce qui va pouvoir démarquer les deux machines.
Il y a écrit X d'un côté et PS4 de l'autre.
Je crois que Sony a quand même déposé un brevet sur le fait que la console est invisible. Ils l'ont présenté à vous deux.
À ce petit jeu-là, les autres ont intérêt à faire attention parce qu'il y a eu pas mal d'annonces de consoles fantômes.
On va poser un brevet pour une console qui peut jouer à des jeux.
Voilà. Alors, dans le tas des rumeurs, la console serait lancée début novembre à $500, ce qui est un prix élevé, mais vu le hardware que ça embarquera, de toute façon, comme le PS4, je pense qu'il faudra pas espérer beaucoup moins. Une rumeur qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est le fait que la prochaine Xbox nécessiterait d'être connecté en permanence à Internet pour pouvoir jouer. C'est quand même une hérésie à partir du moment où on habite au fond de la Creuse ou dans un pays qui n'a tout simplement pas de connexion Internet fixe et stable. Après, reste à savoir si, en devant être connecté à Internet en permanence, si c'est réellement ça ou si ce serait moins sévère que ce que la rumeur dit. Donc, soit ça pourrait être laissé à l'appréciation des éditeurs et développeurs de jeux pour certains, selon le jeu, si ça nécessite ou pas, ou bien peut-être que Microsoft autorisera qu'il y ait un drop de la connexion, enfin que la connexion lâche pendant quelques minutes avant de revenir. Ça, c'est une possibilité aussi. Il y a aujourd'hui ou hier, il y a les Respawn, qui est une équipe de développement constituée d'anciens développeurs qui ont travaillé sur Call of Duty, qui a annoncé un truc de ouf sur la prochaine Xbox, une exclusivité. Un FPS futuriste.
Ah, c'est bien. Ah, bah, c'est. Ah, bah,
ça,
non,
si c'est
bah,
pas alors, le ça, truc original, pas, ouais, ça. Ouais. Si c'est pas le truc original.
Ah, mais non.
Après ça, au rang technique, la console embarquerait 8 Go, mais pas de DDR5 comme la PlayStation 5, mais plutôt de DDR3. Il y aura un lecteur Blu-ray pour décorer.
Et le tu vas nous faire tout l'article ou pas?
Non, ouais, juste les notes.
Ce serait du 1 giga. Complet des rumeurs.
Ouais, voilà, vite fait quoi.
Voilà, savoir quand est-ce que sortira la prochaine de console de Microsoft, c'est sur nintendojo.fr. Ça ressemble à rien.
Ouais. C'est de la merde. On va passer à autre chose, non? Parce que de toute façon, qu'est-ce qui va l'acheter cette Xbox-là ici?
Eh ben, pas.
Personne.
Personne, non, c'est pas personne, mais c'est vrai que.
Tu vas jouer à la dérive.
Ah oui, non, là, c'est vrai que. Moi, j'ai très envie, là, maintenant. Bon, d'ailleurs, je vais enchaîner, du coup.
Ah, mieux que moi, s'il te plaît. Enchaînons, donc.
Alors...
Ah, de Jobar qui part moi, très bien.
Ouais, non, il part très bien en cahouette, là. Là, je vois que là, on est dans le standard, hein, à peu près.
Santé.
Donc moi je voudrais vous parler de l'arrivée du Miiverse, enfin de l'ouverture du Miiverse hors de la Wii U. Donc le Miiverse arrive sur navigateur, enfin sur n'importe quel navigateur digne de ce nom. Donc évidemment ça arrive sur PC. Je voudrais quand même féliciter Nintendo pour une initiative assez sympa, c'est d'ouvrir le Miiverse à toute la concurrence, puisque maintenant on peut accéder au Miiverse depuis non seulement la Wii U, mais aussi la Wii, la 3DS, la DSi, mais aussi la PSP, la PS Vita, la PS3, la Xbox 360.
On peut accéder avec toutes ces consoles-là, mais pas la 3DS. Si tu essaies de te connecter avec les 3DS sur le Miiverse par le navigateur de la 3DS, ça indique « casse-toi pauvre con ».
Ouais, ils l'ont bloqué parce qu'ils prévoient de le faire officiellement à la 3DS.
Et sur,
moi, je pensais qu'il l'avait pas bloqué.
Si, et sur si tu essaies d'accéder via le navigateur de la Wii, ça va mettre aussi « veuillez accéder à Miiverse via l'application Miiverse et pas via le navigateur web de la Wii ».
Ah, c'est nul. Non, mais via le navigateur. Bon, je sais que via le navigateur de la PS Vita, ça marche. Donc, c'est ça le plus important.
Pas de la 3DS, quoi.
Ouais, voilà.
Pas de la 3DS,
c'est un petit peu le truc à la con.
Et puis, à un moment, je me suis dit, en naviguant sur la version navigateur, je me suis dit, putain, ça ressemble quand même vachement à la version Wii U. Et je me suis demandé pendant un moment s'ils nous avaient pas englandé depuis le début. Et qu'en réalité, sur la Wii U, on se tapait une version navigateur un peu light, et qui fonctionnait, voilà, qui renvoyait une page un petit peu débile, comme ça, sur la console.
Et moi, c'est ce que j'ai soupçonné depuis le début, mais sans certitude.
Voilà, alors moi je me suis dit, allez, Mortal mène l'enquête, c'est parti, je mets un mouchard sur mon réseau, je regarde ce qui se passe, alors j'allume la Wii U, je regarde un peu ce qui se passe. Alors d'abord, tout est hébergé chez Amazon, donc comme ça je tue le suspense tout de suite, c'est hébergé sur le cloud d'Amazon. Alors, c'est pas tout à fait la même application qui est accédée, mais en bidouillant un peu les URL, on arrive à retrouver des trucs de la version Miiverse Wii U et de la version Miiverse HTTP normale, oui. Donc je suis arrivé à retrouver des éléments des deux. Mais c'est pas tout à fait la même version. Néanmoins, on tape sur les mêmes serveurs. Donc que ce soit la version navigateur ou la version Wii U, elle arrive sur les mêmes serveurs. Ensuite, je me suis dit, il y a une mise à jour que j'ai pas faite sur la console, je vais aller regarder où est-ce que ça va taper, si ça va taper au même endroit ou pas. Parce que je me suis dit, bon, après tout, quitte à faire de la merde, autant y aller franchement. Et donc voilà, je me suis armé de patience, j'ai démarré le gestionnaire de téléchargement, et donc tout le monde m'a dit depuis quelques temps, bah oui, les téléchargements sur Wii U c'est de la merde, c'est super lent et tout ça, ça est au moins hébergé en Corée du Nord. Et messieurs, non, j'ai une exclusivité pour vous, ce n'est pas hébergé en Corée du Nord, mais saurez-vous deviner où c'est parti, c'est hébergé.
Il va falloir des indices. C'est, suspense, hein, c'est gros, c'est dur. Bah, OVH, c'est gros, en France. C'est pour ça que
c'est,
ça va pas.
Alors c'est en France, c'est un fournisseur français. En tout cas,
j'ai pris
Wii U française.
J'ai pris via les serveurs de YouTube, je pense.
Les serveurs de Gandhi.
Alors non, pas Free, pas Gandhi. Attention, accrochez-vous. Donc moi, je fais ma petite trace réseau tranquille.
Ah ben...
Et je vois une adresse, la 92 59 189 54.
Ah, c'est
très précisément. Et cette adresse appartient au pool de France Télécom.
Ah. Ah oui. Donc ils sont. Oui, mais attends, ça c'est. Oui, forcément.
Voilà, faire,
mais ça c'est pour la mise à jour forcément française, quoi. Enfin, de.
Alors, je pense que
ils ont régionalisé.
Alors,
ouais.
C'est, si le monde entier s'adresse au serveur de France Télécom pour faire la mise à jour, c'est pas tellement que ça rame.
C'est peut-être pour ça qu'ils sont dans la merde. Mais déjà comme ça, on a déjà compris pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on était dans la merde pour une mise à jour, quoi.
Moi, je me suis dit, France Télécom, c'est quand même super fort. Donc, j'ai malheureusement pas pu vérifier avec une Wii U allemande ou une Wii U, je sais pas comment il fait, mais voilà, si en France, c'est France Télécom, c'est vrai qu'on est quand même dans la merde. C'est vrai que ça passe par le réseau 56K. Hein. Ça passe par le réseau téléphonique, les mises à jour. Hein.
Ça passe par, ça va pas vite. Par les pigeons voyageurs.
Par les pigeons voyageurs. Par les PTT.
En 1950, bon, Nintendo a porté sur Wii U les mises à jour via carte perforée.
Bref, voilà.
Alors la question,
Oscar,
c'est, est-ce que
si
c'est plus rapide si on est chez Orange? Voilà là, une vraie question.
Je pense pas. Je pense pas.
Merci.
Je pense pas parce que c'est celui de France. C'est bien les serveurs de France Télécom et pas ceux d'Orange. Malgré tout, c'est quand même deux sociétés séparées.
De toute façon, plus lent, c'est le timer.
Je suis pas sûr qu'ils aient. Alors Oscar, t'avais une petite actualité dont tu voulais parler aussi avant qu'on enchaîne sur la pause musicale. On est bien à la bourre, hein, je vous l'annonce.
Alors
tout de suite.
Une pause musicale, on vous recommande de pas aller pisser.
Un petit peu spécial.
Elle est épique celle-là.
Ouais, non, bah, je vais faire rapide. Moi, je voulais juste évoquer les derniers résultats de Zynga, du coup, puisqu'on parlera de Nintendo la prochaine fois.
Firme de casu, là.
Ouais, voilà, ceux qui font tous les jeux Facebook, le porte-étendard des sociétés qui se lancent dans les jeux Facebook et qui au début étaient vachement bien partis, c'était la nouvelle société qui allait cartonner, enfin d'après les investisseurs, puisque les actions bien démarré.
Oh. On a perdu un morceau de ta phrase, Oscar, je pense.
Ah, ça déconne encore. Ouais, bon, enfin, en gros, c'était bien parti, enfin, c'était pas bien parti parce que dès le début, ils ont fait des pertes. Mais tout le monde pariait un peu là-dessus. Et au final, ils ont enchaîné les pertes. Alors là, leur dernier résultat, ils ont quand même réussi à gagner un peu d'argent. Mais le chiffre d'affaires dégringole. Le nombre de joueurs qui jouent à leur jeu continue à dégringoler depuis un moment déjà. Et c'est dans l'optique de toutes les dernières infos qu'on a eues à leur sujet qui sont pas très réjouissantes, avec plein de licenciements.
Ah oui.
Etc. Et ça résume finalement assez bien leur.
Tu nous annonces une faillite en avance, quoi.
Oui, bah.
Sans venir à la faillite.
Je révèle rien de spécial, quoi. On le sent venir depuis un moment, quoi. Ils ont. Depuis leur début, ils ont pas réussi à gagner de l'argent. Ils ont gagné un peu d'argent en 2010, mais genre en 2011, ils ont fait plus de 400 millions de pertes. En 2012, bon, ils ont réduit un peu les pertes à 200 millions et quelques. Ça reste. Ça reste mal barré, quoi.
Est-ce que ça rejoint ce qu'on disait dans le dernier de Jobar sur le fait que attirer un public casu, c'est bien, mais qu'il faut réussir à le fidéliser, voire à le diriger sur autre chose pour pas le paumer et se retrouver dans cette situation-là?
Je dirais que c'est même pas ça, c'est juste que leur stratégie de base, elle me paraît complètement à côté de la plaque, quoi. Parce que le principe des jeux, de leur jeu Facebook, c'est du free-to-play où en gros, on fait un jeu qui, franchement, est pas génial. Et on le bride totalement de tout un tas d'éléments où il faut payer,
Sauf que si tu payes, c'est des sommes, enfin c'est des sommes totalement démesurées, quoi. C'est genre ah oui. Pour avoir un élément à la con, faut payer 30€, quoi.
Oui.
Pour le jeu que c'est, va mettre 30€ juste pour avoir un élément à la con. C'est-à-dire que si tu veux jouer de manière optimale au jeu, au final, ça te revient à 10 000€, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc, et en fait, leur principe, c'est de se dire, de toute façon, il n'y a que 1% de, ou peut-être même moins, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, c'est peut-être même 0,5% de gens qui vont dépenser de l'argent dans ces jeux. Donc, on va se concentrer sur ce 0,5% et faire en sorte que eux ils crachent un max pour gagner de l'argent, quoi.
Ouais forcément. Ça rejoint un truc que j'avais lu, enfin souvent il y a des, allez, on a parlé récemment du féminisme et tout ça, et donc dans ce cadre là il y a les enquêtes qui sortaient du style la moitié des joueurs sont des nanas et l'autre moitié sont forcément des mecs, qui disaient
bon,
du coup il faut aussi cibler les nanas, enfin il faut cibler tout le monde, quoi, pas faire que des jeux ciblés pour le mâle blanc qui kiffe Call of Duty, on va dire, que ça reprenait. Et en fait, quand on dit que la moitié des joueurs sont des nanas, il y a bon, c'est quelque chose de réel. Il y a une grosse moitié, c'est pour du jeu vidéo orienté Facebook, quoi.
Oui, voilà. Oui, ça c'est clair que quand on nous sort des études comme quoi la majorité des joueurs sont des femmes, ça englobe le jeu vidéo traditionnel, voilà, on va dire, mais aussi le jeu sur smartphone, sur. Enfin voilà.
Exactement. Est-ce que
pareil,
cette étude
pour l'âge, quoi.
Ouais, cette étude-là, elle révèle aussi que le public de type Facebook, on va dire, est beaucoup moins enclin à dépenser de toute façon pour du jeu vidéo. Soit, on revient sur le principe de, il faut l'amener sur autre chose ou bien pas vendre cher, quoi.
Mais en fait, c'est là où c'est complètement con leur truc, c'est de se dire, ils touchent quand même un public très important, et se dire, il y a qu'une minorité qui dépense et on va se concentrer sur celle-là. Et on va faire en sorte qu'elle paye très cher.
Qu'elle raque un max.
C'est voilà. Et en fait, c'est la stratégie du marché, pas jeux vidéo, mais en général du luxe, de dire voilà, on vise qu'un petit public, mais comme eux, ils vont dépenser énormément, on va gagner plein d'argent là-dessus. Sauf que le problème, c'est que là, le produit, c'est pas un produit de luxe, quoi. C'est un peu comme si on essayait de nous vendre une Dacia au prix d'une Porsche, quoi. C'est aberrant comme stratégie, et forcément ça se casse la gueule, quoi.
Il y a des firmes qui réussissent très bien à vendre leurs trucs plus chers, genre des téléphones portables, des lecteurs MP3,
des ordinateurs,
ouais, avec tablette. Des logos en forme de poire.
Il y a une limite à un moment, quoi, parce que là,
ouais,
limite.
Voilà.
Bim, bim. Facebook, bon,
et voilà. C'est des boîtes qui se cassent la gueule, entre guillemets.
Ouais, ça se casse vachement. Enfin, là, en ce moment, ça se casse la gueule. Hein, donc, faut quand même se méfier. Bon, messieurs,
on
vous propose de faire une.
Bien sûr.
Non, mais c'était une société fictive. Messieurs, je vous propose de faire une première petite pause musicale. Je vais juste La pause musicale épique. Je vais juste rappeler à nos auditeurs que vous pouvez nous contacter en direct. Soit sur le chat, vous pouvez prendre votre plus beau navigateur et aller sur .nintendo.fr.
irc.nintendo.fr, t'as une coupure.
Oui, irc.nintendo.fr, ouais. Il y a 2-3 coupures ce soir. Vous aussi, vous avez des coupures. Voilà.
C'est France Télécom. Je vais déconnecter la Wii.
Ils font des interférences sur ma ligne.
Ouais. Ou bien par Twitter en utilisant le hashtag DojoBar, comme ça on peut vous repérer. Repérer et répondre en live.
Voilà, ou alors par mail dojobar@nintendojo.fr. On vous promet, on répond de temps en temps.
Bon. Parfois.
Et donc pour la coupure épique, puisque je pense que ça va être le terme, je tiens à remercier personnellement Monsieur Lapin qui nous a donc autorisé à utiliser ce morceau qu'il avait. Donc il est auteur-compositeur-interprète, je pense qu'on peut le dire. Il est pas compositeur, d'accord. C'est une reprise, je vous conseille de pas aller pisser parce que franchement ça vaut quand même son pesant de cacahuètes.
Alors petit détail important, si vos oreilles saignent, faites le 18.
Allez, c'est parti, on se retrouve dans 3 minutes.
Il y avait un site sur internet avec des mecs pas toujours très nets. On y trouve aussi des photos d'eux avec une console qui cache leur queue. Nintendo Joe, Nintendo Joe. Nintendo Joe, Nintendo Joe. Capone est mort. Et quand c'est, tu l'adores. Dépêche-toi, bien ne reste pas dehors. Mais si t'es un zéro, que t'as rien dans le cerveau, va plutôt voir puissance Nintendo. Internet, avec des mecs pas toujours très nets. On y trouve aussi des photos d'eux, avec une console qui cache leur queue. Nintendo Joe.
Nintendojo FR.
Si tes oreilles vont saigner, tout va bien. C'est tout à fait normal. Donc, on va passer à notre rubrique On refait le monde autour d'une binouze, qui va donc parler du vieux dojo, de son histoire, de ses perspectives d'avenir, de son sa formidable réussite, de son introduction en bourse.
Seulement en bourse ?
Non, pas qu'en bourse.
Ah bah, bien introduit dans mes bourses en tout cas. Hein. Ça,
Écoute, j'ai compris.
C'est un peu horrible. Donc on a la chance, enfin on a la chance, on est en direct avec plein de gens qui sont... Alors je crois que le plus ancien ici c'est quand même Sirard.
En effet.
Puisque c'est lui qui m'a recruté, donc je suis pas... Voilà, et...
J'ai fait une sacrée connerie ce jour-là.
Ouais, je pense aussi, ouais, que t'as fait... ce jour-là t'aurais mieux fait te casser une jambe.
Voir les deux.
Voir les deux, et je pense que le petit nouveau qu'on bizute encore régulièrement d'ailleurs... c'est Oscar. Non, c'est Oscar. C'est Méduse, putain. Excuse-moi, Oscar.
Ouais, merci, je suis prêt de m'excuser. Oscar, on discute quand même, hein, mais c'est pas le petit nouveau.
Voilà, Oscar, ça fait quand même un moment qu'il tient la boutique. Hein.
Moi, je me suis introduit tout en finesse, en fait. Pas en bourse, mais tout en finesse.
Pas en bourse, tout en finesse.
Je sais pas comment tu conduirais le truc, mais on peut peut-être rappeler aux gens qu'est-ce que Nintendojo, d'où ça sort.
Ben, c'est ce que j'allais faire, en fait. J'allais commencer par l'histoire... L'histoire du dojo US, on va faire ça relativement court parce que alors, j'avais proposé aux gens du dojo US de faire une petite interview en anglais qu'on aurait doublé. Malheureusement, bah, voilà, ça n'a pas pu se faire parce qu'ils n'ont pas répondu, parce que c'est des méchants. D'habitude, on a de très bonnes relations avec le dojo US, là je sais pas, ils sont... c'était un peu
ça,
à
oui,
absent.
C'est des méchants.
J'ai essayé de contacter les anciens du dojo FR, donc on aurait fait une interview en québécois qu'on aurait doublé.
Ça aurait pas mal.
Mais ça n'a pas été possible non plus.
Ah, c'est un peu dommage, mais bon, non. Donc, le dojo US, il a été fondé par Pierre Schneider en 1996, ça nous rajeunit pas, c'était l'époque où Internet, ça allait pas vite, et où il y avait des gifs animés dans les pages.
Ouais.
Voilà.
Alors, c'est, attention, la Maison Blanche a dit, c'est gif, c'est officiel.
Ah oui, c'est gif, pardon, c'est gif.
Vous êtes sûr, là-dessus?
Mais lui, c'est gif.
J'ai vu le contraire, le créateur du format qui avait expliqué que c'était gif.
En même temps, c'est graphique que j'ai, donc bon, bref. Mais Obama a dit c'est GIF, donc Obama c'est le maître du monde.
Ah, voilà, donc on dit GIF. Merde. Donc c'était l'époque où Internet ça allait pas vite, et donc Pierre Schneider, avec 2-3 potes de son université, décide de fonder le Nintendo Jo US parce qu'il trouve que sur Internet il y a pas beaucoup d'informations sur Nintendo. Alors c'est vrai que le site officiel de Nintendo à l'époque, eh ben, il fait un peu pitié, comme tous les sites officiels de pratiquement tout le monde. Et les gens qui font l'actualité, c'est les fans. Donc le site, il a été conçu par les fans pour les fans, et il est pensé dès le départ comme étant quelque chose de non lucratif, c'est-à-dire que il y a pas de pub ou très peu. Aujourd'hui, vous allez sur le Dojo US, il y a effectivement relativement peu de pubs. Sur le Dojo FR, il n'y a pas de pub du tout. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Et donc, le site qui a été pensé par les fans pour les fans a été en fait fondé, et c'est peut-être aussi ce qui fait un petit peu la saveur du truc, par un des cofondateurs d'IGN, Imagine Game Network, donc Pierre Schneider, qui a fondé ça avec je sais plus qui d'ailleurs, j'ai plus le nom en tête. Et donc, il a en 97 ou 98, je crois, laissé la main à ses petits camarades. Sur ce, le dojo US grandit et puis a fait quelques petits. Alors notamment, il y a eu un SegaDojo.com qui n'a pas duré très longtemps.
On se demande pourquoi.
Il y a eu un PokémonDojo.com aussi qui était une émanation du dojo US qui n'a pas duré très longtemps. Et je crois que la dernière émanation du dojo US encore vivante, eh bien les petits gars, c'est nous. Voilà, on est très fiers de l'être, hein, mais on est le dernier survivant en fait des descendants du Nintendo.com.
Ah, dit comme ça, c'est voilà, beau, ça fait un petit peu peuple ancien, descendant de...
Ça fait un peu peuple ancien, mais Gaïa, c'est un peu ça quand même, hein, c'est un peu ça. Parce qu'il faut voir que le Nintendo.com, même si c'est un site à but non lucratif, qui est tenu par des amateurs depuis maintenant 15 ans, enfin un peu plus de 15 ans, il a toujours gardé cet état d'esprit un petit peu amateur, mais il est quand même une référence, c'est-à-dire qu'aux US, le dojo est quand même quelque chose de connu.
Alors qu'en France,
c'est pas rien. Alors qu'en France, tout le monde s'en fout. Nous, on a 10 auditeurs et on assume. Voilà, donc je trouvais ça intéressant, c'est un peu la petite histoire dans la grande.
Tu peux décrocher Cyrard de la corde, là, il a pas assumé les 10 auditeurs, je pense.
Non, 10
voilà,
millions, Cyrard,
je te passe la main pour parler un peu du Dojo FR, de la fondation du Dojo FR.
C'est à moi que tu parles ?
Oui, c'est à toi que je
parle. Parce que j'ai coincé mon câble de casque dans les roulettes de ma chaise, avez... là.
Ah, c'est pas dans ton cou ?
Et donc,
alors, figurez-vous qu'il y a Jody Rogoy qui nous dit sur Twitter que c'est GIF et pas GIF.
Ah, je vous l'avais dit.
Donc voilà. Merci, Jody.
Du coup, Obama aurait tort, mais c'est impossible. C'est dans un paradoxe.
Je crois qu'on va avoir une troisième guerre mondiale.
C'est une histoire de GIF.
Ouais.
Ah, Syrah, nous avons perdu Syrah.
Non, je suis là encore en train de...
Il est consterné par le
par le niveau global de l'émission.
Vous me verriez, vous rigoleriez. Attends, même je fais tourner ma chaise et ça devrait aller. Ça y est, je suis décoincé.
On n'a pas l'image, c'est vrai que c'est bien dommage.
Le dojo bar, son mobilier, ses autistes.
Est-ce que cette émission peut reprendre un petit peu de sérieux, s'il vous plaît ?
Ce serait dommage. Donc tu me poses une question, cher mortal.
Je te posais la question, cher Cyrard, de la fondation du Dojo FR, enfin en tout cas de ce que tu te souviens, parce que c'est quand même relativement loin tout ça.
Alors moi j'étais pas là à la fondation, mais en bon petit disciple de Philippe Leblanc, qui lui a fondé la version française, je lui avais posé des petites questions et je m'en souviens à peu près. Donc au début, en fait, Nintendo Jo FR, c'était un paragraphe sur la page d'accueil du Dojo US. Donc il y avait marqué Nintendo Jo FR tout en bas de la page, et on parlait de certains trucs, et puis ça a été amené à traduire des articles. C'était que de la traduction, il n'y avait pas de sujet propre. Et plus tard, il y a eu un nintendojo.com/French. Voilà, ça a été le début de l'indépendance.
De l'indépendance, c'est beaucoup dire.
Le début, ça.
Le début du début. Hein.
On était encore sur leur serveur. Donc j'y étais toujours pas à cette époque-là. Donc il y avait toute une petite équipe de...
On est en quelle année, là, pour situer ?
Si oh, 1922, ma petite dame. 97.
On est en 1997.
Ouais.
Je crois que le dojo US, c'est, C'est septembre 96 et je crois que le Dojo FR a commencé vers le genre de deuxième semestre 97, un truc comme ça.
C'est, je crois que Philippe m'avait dit octobre 97, mais c'est assez difficile vu qu'au début c'était un petit paragraphe et que ça a grandi, on n'a pas vraiment de traces officielles de création de nom de
voilà, maintenant, si vous vous demandez pourquoi on fête pas notre anniversaire, tout simplement parce qu'on ne connaît pas la date.
Absolument.
C'est une bonne excuse, hein, donc on le fait tous les deux mois.
Mais bon, on peut dire qu'on est là depuis 20 ans, hein, de toute façon, personne ne sait.
De toute façon, on peut dire ce qu'on veut, on s'en fout. Hein.
Voilà.
On emmerde tout le monde. Et donc, c'était un slash French. Donc avant, il y avait une splash page qui était une image en page d'accueil, une grosse image en plein milieu, et puis il y avait marqué Enter pour la version anglaise, et puis en dessous il y avait marqué Entrée, et là on rentrait sur la version française du site. Et puis on a petit à petit quitté les serveurs et le domaine US pour être plus indépendant. Donc au tout début, on avait une petite équipe de Québécois. Il y avait Philippe Leblanc, il y avait Mathieu Ménard qui était au développement du site, et puis quelques rédacteurs. Alors
il y avait Simon Larouche qui est quand même resté dans l'histoire pour des névroses extraordinaires.
Absolument. Laurent Lassalle, il y avait d'autres que j'oublie.
Il y avait Geneviève
Robert,
son nom de famille.
Fontenay.
Non, monsieur.
Non, non. Et puis bon, petit à petit, laisser la main aux vrais Français, hein, parce qu'ils avaient sûrement un complexe.
Parce que les Québécois ne sont pas des vrais Français, je vous le rappelle. Hein, ce sont des faux Français.
Des faux Français, mais bon. Donc voilà, et donc Clément, je sais pas si toi tu as la vraie date de notre prise d'indépendance avec notre point com à nous. Je l'ai plus en tête, mais ça doit être pas loin de 99.
Le nintendojofr.com, donc pour moi c'est 99. Enfin, la date que j'ai réussi à retrouver dans les registrars, c'est 1999. Alors, pas le mois, j'ai juste l'année.
Il a perduré jusqu'à 2011, 12.
Bah, il perdure jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait on l'a encore.
On redirige. Ouais.
On l'a encore, okay. Mais on le redirige.
Zuber. Ouais.
Oui. Donc on l'a encore.
Alors, à l'époque, vers 98-99, c'est vrai que le paysage des sites web francophones, c'était quand même pas grand-chose. En généraliste, il y avait jeuxvideo.com, en spécialisé Nintendo.
Qui démarrait tout juste d'ailleurs.
Ouais, en spécialisé Nintendo, moi je me souviens de maxoe64.com.
Ça.
C'est là où j'ai connu au début. J'ai connu un petit peu le dojo juste un peu après. En visitant. Exactement. En visitant épisodiquement de temps à autre, mais c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait rien, tout était à faire.
Les débuts internet.
Oui.
Ouais.
Ouais, c'est un peu ça, mais tu rigoles, mais à l'époque, enfin moi quand j'ai commencé à faire des trucs pour le dojo, donc j'ai commencé par fréquenter le forum. Je pense que tout le monde a commencé en réalité par fréquenter le forum, parce que on se tape quand même des bonnes barres sur le forum de temps en temps. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Il y a quelques petites périodes de mou, mais de temps en temps on arrive à se taper une bonne barre. Et donc j'ai commencé par fréquenter le forum, et puis j'ai vu qu'il y avait un sujet genre Nintendojo FR recrute, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Et c'est vrai que t'étais un pionnier à l'époque, hein. C'est-à-dire que dans les textes, fallait faire du HTML, hein. C'était hardcore.
Oui, alors on parlera peut-être de AV7 plus tard, mais les versions de l'époque, c'était donc du pur HTML, et Mathieu avait donc développé des scripts en CGI BIN, enfin en Perl, mais c'était du Perl, je crois, je suis pas sûr, même plus sûr.
Il y avait du Perl, il y avait du HTML. C, très exactement. Et c'était le bordel.
Ça générait du HTML. Alors je me souviens qu'on avait fait un changement de version, ça devait être entre la V3 et la V4, et ils nous avaient programmé un truc et on devait prendre tous les textes un par un et puis les mettre dans la petite machine qui allait créer des nouveaux fichiers HTML avec le nouveau design. Et
c'était,
on passait
super classe,
des heures et des heures pour faire des migrations.
C'est beau souvenir.
Alors que là,
qu'il y avait pas
Mortal, si on avait dû faire sur les quoi, on a 6000, 7000 articles là maintenant.
On a 10 600 articles.
Ah bah j'en étais pas loin.
Allez, je
si on avait dû les prendre un par un pour tout migrer,
ah bah ça aurait pris du temps. Hein.
Je pense qu'on était là pour le 1er avril 2014.
Il aurait fallu se délocaliser, je pense. Hein.
Oui, il aurait fallu faire ça en Thaïlande ou un truc comme ça. Quoi. Ouais. Payer des petits Chinois pour pédaler.
Mais attends, je sais pas des Chinois qui ont un clavier AZERTY. Hein.
Oui, tout à fait.
En plus,
c'est-à-dire qu'ils sont UTF-8, hein, sinon on n'y arrivait pas. Je sais pas si tu te rappelles, Sierra, il y a un détail qui m'a beaucoup marqué à l'époque, c'était le Dojo Update. Je sais pas si tu te rappelles de cette merveille qu'est le Dojo Update. Si
ah
tu
oui,
peux expliquer
Philippe
comment ça fonctionne,
avait...
parce que ça c'était. Je crois qu'on est les deux seuls à l'avoir connu. Je pense qu'Oscar l'a pas connu.
Non.
Alors c'était une petite une applette Java que Philippe avait développée et donc c'était assez merdique, faut dire.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Bon, c'était du
Philippe,
Java,
si tu nous entends.
C'est pour toi celle-là.
C'était du Java, c'est pardonnable. Et donc, en gros, par exemple, typiquement, la citation du jour, si on voulait la modifier, c'était un fichier HTML à modifier. Et donc, on lançait ce point. Je ne sais pas ce que c'était. Hein,
ce fichier jar, enfin, je sais plus. C'était, on lançait le fichier Java.
Sûrement un jar, ouais. Et on modifiait ça comme ça. Mais typiquement, la page d'accueil du site, donc c'était un fichier HTML également. Donc, à chaque fois qu'on crée un article. Un éditorial par exemple, il fallait qu'on lance Dojo Update pour rajouter un lien avec, donc on mettait le titre, le petit résumé, la petite image, on foutait ça dans le Dojo Update et donc ça modifiait le point HTML tout seul. C'était assez magique.
Alors c'était magique, mais ça merdait quand même à peu près une fois sur deux.
Alors surtout pour les courriels.
Les courriels c'était l'horreur.
Alors, t'imagines que donc on avait 15-20 questions à répondre, donc on rentrait la question, on faisait suivant, on rentrait la réponse, on faisait suivant, et puis si à la 14e question tu te gourais,
ça fait
tout recommencer. Et on mettait un temps fou.
Ouais, les courriels c'était l'horreur à faire. Enfin, je l'ai fait une fois ou deux avec je sais plus qui. C'était tellement la misère à faire. On était obligé de tout rédiger à côté en fait du truc et puis de le copier-coller et puis d'espérer qu'on se gourre pas de questions, de réponses, qu'on copie-colle pas deux fois un truc, sinon fallait vraiment tout se retaper.
Ah, c'était le bon vieux temps.
C'est le bon vieux temps, voilà. Donc ça c'était quoi? C'était la V4, si je dis pas de bêtises, la V4 ou la V5?
Ouais.
Ça devait être, voilà, je pense que
on sent la V4... qu'il y a pas vraiment de conviction
Non, on sent quand même le mec qui avait envie, quoi.
Alors la V6 c'est l'ancienne, la V5 c'était celle d'Alphador, donc ça devait être la V4, ouais.
Ça devait être la V4, parce que entre la V4 et la V5, pour moi il y avait juste un changement de design et il y avait quelques trucs qui étaient améliorés. Genre le Dojo était moins merdique, tout est relatif.
Mais je crois que la V5 était en PHP déjà.
Il devait y avoir des bouts, ouais, déjà.
Donc
en fait la V6 c'est celle que tu avais intégralement programmée.
C'est ça.
Avec tes petits doigts potelés. Elle date de 2002, si je dis pas de bêtises.
On a mis sacrément longtemps à la virer.
Mais en fait, elle a quand même subi quelques évolutions parce que quand on a changé de serveur, parce qu'à l'origine on était hébergé par un hébergeur québécois qui s'appelle Kanaka, enfin canadien en tout cas qui s'appelait Kanaka. D'ailleurs, je vous rappelle que le serveur qu'on a chez Kanaka est toujours allumé et il y a toujours l'ancienne version dessus. Ça marche encore. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas payé, mais ça marche encore.
On est un peu couillon de leur payer un autre, hein, cela dit.
On est un peu couillon. On a pu garder gratuitement celui-là. Je pense qu'on a plus les accès. Donc là, quand on a migré sur le nouveau serveur, il a quand même fallu faire quelques modifs, notamment tirer des vieilletés, des vieilles, des cochoncetés qu'on avait fait dans le code. Donc en fait, cette V6, même si elle est, entre guillemets, relativement statique, elle a quand même évolué, c'est-à-dire quand on est arrivé à V6.7 en 2000, si elle s'appelait V6.7, c'est pas seulement pour le gag.
En quelle année ça a coupé au moment où tu l'as dit?
En 2009-2010.
Ah oui.
Voilà. La V6.7, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on avait fait une V6.5, une V6.1, enfin on avait fait une 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, même si c'était des évolutions discrètes, c'était genre placé, on a tout en UTF-8, on a mis tout en machin, bon c'était des évolutions un peu mineures, mais c'était des trucs qui étaient nécessaires simplement pour suivre l'évolution du serveur derrière.
Bon, en vrai, on les avait pas trop nommés, hein, ces versions-là, mais...
Oui, mais enfin...
Au moment où on s'est dit, bon, ça va bien être la 6 ou la 7, à peu près la 7e.
Ça nous permettait de faire un super gag pour l'introduction.
C'était pas mal.
Ça aurait été dommage de passer à côté.
Donc effectivement, ouais. Il y a eu ces deux versions là sur les 10 dernières années, enfin cette version et cette sous-version. La version d'avant est assez mythique auprès de l'équipe. C'est celle qui avait été dessinée par Alphador. Alphador, c'était un ami de Philippe qui était designer. Enfin, il était, je sais pas comment on peut appeler ça, mais il faisait des beaux dessins en 3D. Et c'est lui qui avait fait cette version-là, et c'était franchement, c'était une version donc pour ceux qui se souviennent, fond noir quadrillé avec,
ouais, je m'en souviens,
avec les toutes petites bandes bleues en haut, des colonnes à droite et à gauche collées, voilà, au bord de l'écran.
Et les bandes bleues avaient un cadre blanc, c'est ça?
Bleu clair.
Bleu clair.
Bleu très clair, ouais, un peu fluo en fait, enfin, un peu flashy.
Assez futuriste
et qui faisait mal aux yeux quand on lisait la nuit.
Oui, parce que le c'était encore à l'époque du blanc sur noir.
Texte blanc sur fond noir.
Et alors, c'est vrai que ça série, tuait un peu les yeux.
Voilà, dans la série, les pires alliances des pires alliages de couleurs qu'on puisse faire, moi, il y a un seul moment où j'ai réussi à faire pire, c'est en mettant du rouge vif, hein, de texte bleu sur rouge vif. Voilà.
Oh là là.
C'était un petit peu pire que le dojo, mais c'est vrai qu'à la longue, c'était quand même, c'était difficile à lire.
En même temps, à cette époque-là, sur Internet, tu trouvais pas des designs super.
Voilà. C'est pas comme aujourd'hui. Tu sais, moi, ce qui me faisait plaisir avec MySpace, c'est que j'avais l'impression de revivre un peu mon enfance, quoi. Les trucs comme
ah ouais, carrément.
Avec des couleurs criardes.
Moi, quand j'ai entendu parler de MySpace la première fois, je suis allé voir, j'ai cru être sur le mauvais site, quoi, tu vois. J'ai pas tout le monde parler de MySpace, je me dis c'est quoi MySpace, je vais voir, je tombe sur un ramassis.
Non, puis le must, c'était les intégrations flash à l'arche. Moi, il y a une page MySpace, sincèrement, quand je suis arrivé dessus, je me suis dit si mon PC peut faire tourner cette page, il peut faire tourner Crysis 2.
Ah oui, mais ça, carrément. Ça.
C'est pas possible autrement, parce que
c'est un machin à saturer ta RAM et...
J'étais juste immonde. Mmh. Bref, on va peut-être parler de la V7 du coup, parce qu'on a fait, je pense que là, l'histoire, on l'a bien retracée. Pour une fois, on aura une vraie trace à un instant T de tout ce qu'on a fait en matière de dojo.
Est-ce qu'on peut dire qu'avant la V7, il y a eu un moment où le dojo a fait dodo? Il a fait dodo.
Je vois pas de quoi tu parles.
On a eu quand même une petite période. Période à vide de toute façon, enfin ça fait 10 ans qu'on, en gros, que c'est sur la V6, ça fait 10 ans qu'il y a des périodes, on va dire, de mou et des périodes de dur un petit peu. De temps en temps, l'équipe prend un Viagra et puis c'est reparti, mais il y a des périodes de mou, il y en a toujours eu de toute façon, de toute époque. On fait quand même ça complètement bénévolement, je tiens quand même à le rappeler. On n'est pas payé du tout, il n'y a même pas de publicité, et d'ailleurs je paye le serveur sur mes deniers personnels. Ce n'est pas un appel au don, mais si vous voulez, vous pouvez composer le 36-37.
Option mortale a besoin de pognon.
Non, ça va, je le paye sur denier personnel. Et donc voilà, donc c'est pas une association ni rien, c'est quelque chose de complètement...
Un site de casu.
C'est un site de casu.
Mais quel casu ?
Par les casus, pour les casus, c'est ça qui est important.
Exactement.
Voilà. Et donc la V7, alors les nouveautés, je pense que maintenant tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui écoutent le podcast doivent les connaître. Les news par Twitter, le nouveau design, le dojo bar, ça mine de rien, nous sommes une nouveauté, messieurs.
Absolument. Nouveauté, alors attends, parce qu'on a commencé à vraiment bosser sur le projet genre fin 2012, mais j'ai retrouvé un MP qu'on s'était échangé de 2010 dans lequel on se disait déjà faudrait bien qu'on se fasse un petit truc mensuel. On a mis un peu de temps.
On a mis un peu le temps, mais c'est les projets sont longs à accoucher.
Voilà. On avait commencé la radio avec les traductions des conférences de LeCube en français, en direct et tout ce qu'on veut. On avait commencé ça en 2010.
D'ailleurs, on a peut-être arrêté en 2013 puisqu'il n'y a pas de conférence de Nintendo.
On fera Sony Microsoft.
Ouais, bah je sais pas.
C'est moins motivant
si Sony,
du coup.
Si on fera 3 heures du mat, c'est un peu moins motivant.
Bon, la V7, elle a commencé son développement il y a 10 ans à peu près. Hein.
Ouais,
c'est à peu près le même cycle de développement que Duke Nukem Forever. Alors, en fait, il y a eu une bonne cinquantaine de V7.
À peu près, oui. Ça a été changé de développeur, ça a été changé de projet, ça a été changé de machine. À l'origine, on voulait la développer pour Super NES, puis finalement, elle est passée sur N64. Enfin, c'était compliqué.
Oui, donc il y a eu pas mal de choses différentes. On a eu un truc, Mortal, je pense que tu t'en souviens, assez abouti. Enfin, assez abouti. Je pense que c'était le plus gros truc qu'on avait fait.
Assez abouti.
Et ça ressemblait vaguement à Net Vibes.
Je me rappelle de cette version.
Le truc avec l'encyclopédie, là.
Alors, l'encyclopédie, c'est encore une autre.
Parce que moi, l'encyclopédie, je me rappelle quand même avoir pas mal bossé dessus, et puis un jour, tout a disparu, quoi.
Non, mais moi, j'ai une sauvegarde, hein, dans un coin. Donc, faudra que je la ressorte, hein, C4.
Je me souviens même pas de quoi tu parles, tu vois.
Mais si, avec le...
On avait fait un wiki, ouais.
Ouais, voilà.
On a commencé à remplir un wiki.
On a commencé à faire un wiki, ouais. Ça date, ouais.
Ça date pas mal, mais la version NetVibes, elle date de, je sais pas, ça doit être, moi j'aurais dit fin 2006, début 2007, un truc comme ça, ou peut-être un peu plus tard.
Ah, plus tard.
Plus tard, c'est l'époque où on s'est dit, tiens, ce serait bien de faire un truc un peu original, si on faisait un machin avec plein de widgets partout, puisque c'est la mode. Puis bon, la mode est passée, on a commencé à s'intéresser à la mode des widgets au moment où ça c'était sur le déclin. Comme d'habitude, d'ailleurs, on commence à faire des réseaux sociaux, c'est sur le déclin. Alors, je vous l'annonce tout de suite, hein, Twitter dans 2 mois c'est fermé. Hein. On a commencé à se mettre, là,
c'est pas grave.
C'est foutu.
Bon, j'ai posé une option de rachat.
Ça rapporte rien, il n'y a pas de modèle économique.
Oui, mais au moins notre site il continue à tourner.
Voilà, donc la motivation du choix de Twitter, je sais plus, on avait reçu un message super intéressant d'un mec qui expliquait la motivation du choix de Twitter, un mec qui n'était pas du dojo qui expliquait pourquoi on avait choisi ça. Je trouvais ça intéressant. Tu te rappelles un peu Méduse, parce que c'est toi qui nous l'avais posté, tu te rappelles des grandes lignes?
Oui, si, c'est Ziel, Ziel qui est designer web et qui fréquente les forums de Nintendo Différence, où il disait qu'en fait à l'heure actuelle, et c'est à peu près la réflexion qu'on a eue d'ailleurs avant d'arriver à ça,
notre philosophie en fait.
Voilà, c'est que nous en tant que francophones, on lit pas nos news sur nos sites, sur les sites français la plupart du temps. Et donc on s'est dit, on les lit pas pourquoi, bah parce qu'elles arrivent à la bourre de manière incomplète, qu'il faut recouper les sources pour tout comprendre, etc. Et c'est des trucs qui nous ont tellement pelé le jonc qu'on s'est dit, avec le temps on a affiné nous-mêmes nos propres techniques d'information, on va dire, donc suivre l'actualité pour nous ça nous prend pas plus de temps que pour vous sur le dojo. Sauf qu'on l'a en version anglaise. Le fait d'aller via Twitter, ça permet d'être très réactif et ça permet aussi, tout simplement, au lecteur de pouvoir suivre ça facilement d'un peu partout, etc. Et au final, ce qui compte, c'est pas vraiment d'avoir le site, voilà, d'être extrêmement concis, de pouvoir renvoyer vers autre chose de plus complet pour ceux qui veulent, plus complet.
Et puis c'est surtout le côté. Voilà, faire un site comme les sites pro qui existent en France, qui eux ont des moyens financiers, des équipes, voilà. qui travaillent là-dessus à plein temps, on peut de toute façon pas lutter avec ça en étant bénévole. Et autant essayer de se démarquer sur des trucs un peu différents et de traiter ça de la manière la plus basique qui soit, c'est-à-dire
exactement.
En 140 caractères surtout.
Donc pour nous l'actu c'est juste c'est le truc qu'on suit tous les jours, donc on restitue, ça nous prend vraiment pas trop de temps du tout, et donc comme ça le peu de temps qu'on met à faire l'actu, eh ben on le regagne pour faire d'autres trucs, des articles, préparer le dojo bar, aller voir votre
préparer le dojo bar, un jour on fera la vraie recette de préparation du dojo bar, vous allez voir, c'est
quand même assez épique. Parce que pour le moment ça c'est aléatoire et épique, c'est vrai.
Aléatoire, c'est pas le terme que j'aurais employé. Je sais pas pourquoi j'aurais pu à l'arrache éventuellement, mais
et donc c'était la réflexion de Ziel des formes de Nintendo Différence, qui était de se dire finalement le dojo
si
faire en faisant ça, ils ont tout compris.
A-t-il
dit. Textuellement c'est ce qu'il a dit, qu'on avait tout compris
et, on est comme free, on a tout compris.
Parce que c'est vrai que finalement quand on va voir le reste des sites web francophones, ça leur demande beaucoup de temps pour faire leur
voilà,
truc.
Ça leur demande du temps, ça leur demande de l'énergie pour finalement un résultat qui est qu'ils sont un peu à la bourre. Alors effectivement,
exactement.
Ils traitent le truc de manière un petit peu plus complète, mais il y a de l'actualité qui ne mérite pas forcément un traitement complet, je veux dire.
Et il y a des choses qui passent à la trappe aussi du fait que ne peut pas tout faire, quoi.
Tout à fait.
Mais
honnêtement, je me rappelle clairement d'avoir vu genre un article de Gamekult, il y a 3 nouvelles images de tel jeu, et puis le mec il se sentait obligé de mettre 4 phrases au-dessus pour essayer de meubler, les 4 phrases on s'en foutait, il remettait les mêmes quasiment à chaque ça n'avait aucun intérêt.
Et honnêtement quand même, chapeau, enfin quelle que soit la qualité des autres sites, etc., chapeau à ceux qui restent dans une équipe qui fonctionne avec un système comme ça où il faut prendre du temps, etc., quoi, en dehors des sites pro. Parce que c'est quand même pas évident.
Ah.
Ah, Morta, il y a des morts près de chez toi.
Et c'est quelqu'un qui a écouté le...
c'est l'ambulance, ils viennent te chercher. Bon.
Mais c'est vrai, du coup...
Oui, on va peut-être faire une deuxième pause musicale, en fait. Ah. J'allais proposer, parce que là, je pense qu'on
va peut-être juste finir en rappelant que
alors vas-y, fini.
Qu'il y a encore pas mal de trucs qui n'ont pas pu être finis à temps pour le lancement de la V7, et avec le principe des patch Monday, ça va, il va encore y avoir d'autres trucs qui vont arriver.
Ouais. Dans les mois qui viennent. C'est pas qu'on n'a pas eu le temps, c'est que
oui. fort des c'est que monsieur d'expérience
d'échecs en tout genre de développement, on a commencé à se dire en fait on va faire un truc super bas de gamme avec aucune fonctionnalité et puis on rajoutera ça petit à petit, ça évitera de se démotiver pendant un an.
Parce que voilà, c'est comme la Wii U quoi.
C'est un plan très insidieux pour réussir au final à conquérir Internet petit à petit.
Voilà.
Pour devenir des stars.
Donc le dojo c'est un freemium, c'est gratuit et on aura des DLC payants.
Non mais c'est vrai que je me permets quand même avant de faire la pause de préciser, toute l'histoire de la V7 c'est d'avoir voulu faire quelque chose de trop complet, trop parfait. D'avoir mis le dojo bar beaucoup trop haut. Par rapport à ce qu'on pouvait faire rapidement. Et finalement, c'est ce qui démotive les gens, c'est de se dire que on a fait 60% du boulot et que les 40 restants, c'est vraiment. Enfin, c'est énorme, quoi, et que ça peut pas se subir. Donc finalement, on a préféré baisser, avoir les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire avoir des moyens faibles et des ambitions faibles. Je vous ai présenté ça comme ça, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a baissé les ambitions au niveau des moyens, et on s'est dit vaut mieux une petite chaque jour qu'une grosse tous les 6 mois.
C'est important. Faudrait faire un sondage pour voir si tout le monde partage cet avis.
Je suis pas sûr que tout le monde le partage, mais moi j'aime bien cette phrase. Je tiens à remercier Nier pour cette phrase qui envoie du pâté.
Alors en temps de développement, je dois dire que j'ai dû mettre autant de temps à développer tout ce que j'ai développé sur la V7 que de faire l'animation. Donc ça s'appelle du travail efficace quand même.
Oui, non mais c'est...
Allez, c'est... D'ailleurs c'est pour ça que l'animation est toujours présente sur le site, c'est parce qu'il faut la rentabiliser maintenant.
elle va rester là pendant 6 mois encore.
Exactement.
Non, on a dit au prochain Patch Monday elle disparaît.
Au prochain Patch Monday elle disparaît. Bon messieurs, on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Rayman Origins. Alors je n'ai pas le titre c'est la piste numéro 7, malheureusement je n'ai pas le titre parce que j'ai pas réussi à le retrouver. Appelons la piste numéro 7 parce que derrière on va parler de Rayman Legends. Voilà, parce que maintenant on a fait beaucoup sur le dojo, on va commencer à parler un peu autre chose quand même.
Un petit peu.
Voilà, on se retrouve dans 3 minutes 12, à tout à l'heure.
Oui.
Et nous voilà de retour. Donc, on va pouvoir parler de... Il m'énerve quand il fait ça, j'ai la voix off de l'autre côté. Là. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho dans le bar.
Bar. Tout partout.
Les
donc, pas de chocolat.
Médus, est-ce que tu peux nous retracer le foirage légendaire de Rayman Legends?
Oui.
Le feuilleton interminal de cet échec cuisant d'Ubisoft.
Volontiers, chers auditeurs.
Teur.
Le bâtard.
Tard.
Alors, Rayman Legends, annoncé officiellement en avril 2012, avec toutes les fonctionnalités qu'on lui connaît déjà, un mode de jeu en ligne, les cartes NFC qui sont pas encore, dont on n'en a pas encore parlé, et le challenge mode qui était déjà dans le premier trailer puisqu'on voyait des fantômes. Ça, c'est en avril 2012. À l'E3 2012, Nintendo présente sa Wii U, et là, Rayman Legends est annoncé comme présent au lancement du jeu, de la console. Évidemment, un mois et demi avant la sortie de la console, c'est-à-dire début octobre, on apprend que le jeu est repoussé à 2013 parce qu'il n'est pas fini. Et là, il y a pas mal de joueurs qui criaient déjà au scandale, puisque la Wii U les intéressait notamment pour Rayman Legends. Début décembre, on apprend que Rayman Legends a une date de sortie 2013, précisément le 28 février, et une démo doit débarquer le 13 décembre, c'est-à-dire une semaine après l'annonce et deux semaines après la sortie de la Wii U environ. Est-ce que quelqu'un qui a la Wii U au lancement sait s'il y avait déjà des démos sur la console dès le lancement?
Non, il n'y en avait pas.
Si, il y avait FIFA, il me semble.
Non, mais c'est FIFA, elle arrive 3 jours plus tard. Pas le jour du lancement.
Ah oui. Donc déjà pour la démo, ils étaient à la bourre, quoi. Comment
c'est
pas terrible.
En même temps, c'est peut-être Nintendo qui était à la bourre.
Pour la démo de... Ouais, mais pour la démo de Rayman, s'il y avait déjà celle de FIFA 2-3 jours après la sortie de la console, tu vois.
Ouais, mais ça, ça ressemblait bien à l'eShop est pas prêt, tu vois. C'est un peu, ouais. Ils ont fait comme la V7, bah y a pas ça, c'est pas grave.
Et donc la démo prévue le 13 décembre n'est pas repoussée, miracle. Elle sort, 3 niveaux qui se retrouvent dans la, dans le mode challenge actuel, mais qui sont jouables hors contexte des défis. 3 niveaux qui seraient, selon Oscar, qui nous disait sur le forum, qui serait simplifié et un pas raccourci par rapport au mot qui avait été présenté au Paris Game Week et donc probablement le 3.
Oui, oui, c'est ouais, déjà le 3 même. Je pense qu'on peut retrouver. Oui, d'ailleurs, je l'avais fait à l'époque. On peut retrouver les vidéos des la démo de le 3. C'est pas c'est les niveaux de la démo qui est sur l'eShop sont simplifiés par rapport à la démo de le 3.
Ah ouais.
Je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi. Nous ne le savons pas non plus. Mais bon, sachant que le jeu à la bourre.
Cela reste un mystère.
À la bourre, on peut peut-être le deviner. Exactement. Alors, donc, on apprend donc, début décembre, que le jeu est reporté au 28 février. Et là, 2 semaines avant sa sortie, le 7 février, le jeu est repoussé à septembre. Ubisoft ayant décidé de le repousser pour on ne sait quelle raison mystère, mais ce serait officiellement pour pouvoir le lancer en même temps sur PS3 et 360. Donc on passe d'une exclue à un jeu multiplateforme repoussé 7 mois plus tard alors qu'il est terminé.
C'est pas mal quand même.
Là il y avait déjà des gens dont la Wii U commençait à prendre la poussière depuis un temps qui se réjouissaient début février de pouvoir avoir Rayman Legends fin du mois. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont fait un ulcère du coup.
Et un ulcère du coup.
Non, qui du coup, virgule, ont fait un ulcère. Coup, c'est OUP. Je te merde. Et selon la rumeur, c'est Nintendo qui ne voulait pas payer la promo de l'exclusivité Rayman Legends. On va en discuter dans un instant. Alors suite à ça, le feuilleton n'est pas terminé, on va revenir sur les différents points critiques après. Annonce du report à septembre, avalanche de messages sur la communauté Uplay du Miiverse, scandale, pendez Ubisoft, pendez tout ce que vous voulez.
Je crois que le Miiverse a eu une utilité, c'était une manifestation.
Ouais. Sur le web, il y a une manif. Je crois qu'il y a eu une pétition à un moment sur le web, je ne me souviens plus parce que bon, les pétitions, c'est. Voilà.
Une pétition. Pétition.
Et le lendemain de le lendemain de l'annonce du report, alors que l'affaire avait déjà fait beaucoup de bruit, Ubisoft explique au site anglais Digital Spy que, les mecs, on est désolé, la seule raison pour le report de Rayman à septembre, c'est vraiment simplement qu'on veut le sortir sur toutes les consoles en même temps. Ah bah, on sait que c'est pas une réponse très élaborée ou convaincante, mais bon, c'est la vérité, allez vous faire foutre. Voilà. Alors, il y a une rumeur
qui c'était à peine plus poli que ça.
Ouais. Il y a une rumeur qui proviendrait d'un soi-disant ancien employé d'Ubi Montpellier, qui indiquait que le jeu était en fait terminé en date du 9 janvier, complètement terminé, c'est-à-dire qu'ils étaient quasi en vacances, là, et qu'ils devaient peut-être juste commencer à préparer le SAV. Et le mec disait qu'il s'était l'équipe de développement d'Ubisoft, donc Ubisoft Montpellier, s'était arraché la gueule pendant des mois et des mois sans voir leur famille pour préparer la démo qui a été présentée à l'eCube et puis préparer la suite et boucler le jeu. Et puis qu'on leur annonce comme ça, paf, hop, un mois après que le jeu soit terminé.
Ça, c'est de toute façon, c'est un truc qui arrive pour tous les jeux. La fin du développement, ils bossent comme des dingues.
Ouais, ça c'est clair.
70 heures par semaine. Enfin, c'est un truc normal, mais normalement, quand
ça c'est certain.
Le jeu sort, t'es satisfait. Quoi.
Voilà, disons que dans le contexte particulier ici, c'est quand même bon de le rappeler qu'il y a des gens qui travaillent dur, et puis après, bon, bah, on leur dit désolé les mecs, on sort
ça
pas.
Ça servit à rien, quoi.
Ouais. Et donc le lendemain, donc on est juste 2 jours après l'annonce du report, un petit message d'Ubisoft France sur Facebook, qui fait véritablement du damage control, qui annonce une démo exclusive pour la Wii U.
Donc Ubisoft invente une démo exclusive. Ouais.
Donc le jeu il est terminé, les mecs ils disent bon écoutez on va sortir une démo exclusive pour vous faire patienter, on va la sortir quand ? En avril. Alors, 3 jours après l'annonce de cette démo exclusive, on est toujours en février, on voit notamment une photo de Michel Ancel avec 2 personnes qui sont véritablement des fans d'Ubisoft, avec une pancarte de soutien à Ubi Montpellier, et une autre photo où il n'y a pas Ancel, mais où il y a l'équipe de développement, apparemment. voilà, qui posera avec sa banderole du style on n'est pas content, on veut que je sorte, allez tous vous faire voir.
En, en même temps, ça pourrait être 4 gugus devant un bar avec une banderole, ce serait pareil, hein, parce que moi je les connais pas les mecs. Hein.
Ouais, non, mais exactement.
C'est juste pour situer. Hein.
C'était la bonne équipe, mais c'était la, enfin, la banderole, c'était vraiment le fan qui l'avait fait. Et puis les mecs, ils se sont dit, bah allez, si tu veux, on pose avec toi sur la photo, mais c'était pas de leur initiative, quoi. C'était pas l'initiative du studio de développement.
Ouais, évidemment, c'est pas le studio de développement se permettrait pas, je pense, d'aller dire à la maison mère, vous avez fait une connerie. Enfin, même si, peut-être
à mon avis,
ils l'ont dit,
à mon avis,
privé,
ils l'ont dit en interne. Ils l'ont dit en management quand même. Ouais, voilà, en interne.
En interne, je pense que ça s'est dit, mais enfin, je suppose que ça s'est dit, j'étais pas là. Mais c'est évident que ce n'est pas du, enfin, c'est pas Ubisoft en tant qu'éditeur qui aurait encouragé ce genre de choses là. Au contraire, quand même plus.
Ah bah ça, non, ça c'est certain. Ça même tu les faire. Enfin, je suis pas certain que ça ait pu les faire chier parce que ça, mine de rien, ça fait de la pub au jeu.
Ouais, voilà. Sauf si c'est une manière. Enfin, je veux dire, je pense pas que l'équipe de développement aurait été très d'accord par rapport à cette pratique là, mais d'une manière ou d'une autre, ça fait de la pub, quoi. Et avant que vous discutiez de la suite du feuilleton, sa petite fin. Donc, poum poum poum.
Et ben
vers
voilà,
la mi-février,
c'est fini.
Voilà. vers la mi-février, donc, on nous confirme la sortie du mode challenge en avril. Et coïncidence ou volonté d'Ubisoft, sur l'eShop, tous les jeux d'Ubisoft sont en promo à moins 30%. Alors, on ne sait pas si ça fait partie aussi du damage control ou pas.
L'échange de boules.
Ouais, mais véritablement, voilà.
Je crois que ça faisait pas. Il me semble que ça faisait partie, ouais, d'une manière de s'excuser, de dire voilà, on met en promo le jeu.
Alors, véritablement, moi, je pense que c'est une manière de l'interpréter. Maintenant, bon, on ne sait
après,
pas si dans les faits ils avaient
les
prévu
promos,
ça déjà avant
ça
ou
pas,
mais
ça arrive tout le temps et ouais. ça leur rapporte de l'argent, ça leur fait. Enfin, voilà.
Enfin, encore que le terme promo est tout relatif, parce que vu le prix des jeux sur l'eShop, bon, on t'enlève 30%, t'es tu gagnes pas tellement beaucoup par rapport à une version physique.
Alors c'est marrant parce que bon, donc c'est quand même un foirage relativement légendaire, un foirage bien dans les règles, et pourtant quand ils ont sorti le mode challenge là, cette espèce de démo exclusive, on peut toujours appeler ça une démo exclusive, vous préférez appeler ça autrement?
Pour le moment elle est exclusive.
Ah, voilà, quand ils pour le moment elle est exclusive, alors c'est une démo exclusive temporaire donc...
Mais ouais, c'est, enfin, en fait, c'est.
Mais vous y jouez tous comme des moutons, c'est ça que je veux dire.
Mais non, mais c'est-à-dire que. Fond. Alors déjà, c'est ce qu'on nous disait en off tout à l'heure là, mais.
Y a... On n'a pas encore les off ouais. dans l'émission.
Non, mais bon, pour résumer, enfin, ça, on sait pas trop. C'est, est-ce que ce mode challenge était prévu de départ, va être dans le jeu, etc. Ou est-ce que c'était vraiment un truc fait pour s'excuser, une manière de dire, bah voilà. Comme on retarde le jeu et tout, pour s'excuser, on vous file ça gratuitement. Alors, de toute façon, le fait que ce soit gratuit, ça montre bien que c'est une excuse, mais.
C'est une démo, quoi.
Mais. Bah, c'est pas une démo, moi je.
Elle est pas limitée en nombre d'usage.
Je crois que. Elle est pas limitée en nombre d'usage, mais quand le jeu sort, je demande s'ils vont pas couper les défis journaliers. Quoi? Qui ça va être mêlé
attendez, parce
au
que
jeu
alors, moi,
que
alors
ouais, déjà,
j'ai pas
déjà
tellement compris comment ça marche. Alors voilà, comment
alors,
marche le défi journalier?
Je vais expliquer un peu le
voilà.
principe. C'est en
je
gros,
il ouais.
y a dans le donc quand on accède au mode challenge, on se retrouve avec 4 niveaux. Il y en a 2 qui sont bloqués, il y en a 2 qui sont accessibles directement. Il y a le défi de la semaine et le défi du jour. Et après, pour débloquer les autres niveaux, c'est quand on fait des bons scores sur sur ceux qui sont déjà accessibles, on peut accéder au niveau supérieur. Et le principe, ça tourne autour de 4 types de niveaux différents. Donc il y en a un où c'est, ça correspond en gros au niveau dans Rayman Origins où on devait attraper le coffre. C'est-à-dire on fonce à toute vitesse sur une ligne horizontale. Il y en a un où c'est pareil, sauf que c'est sur une ligne verticale. Et il y en a un, toujours sur une ligne verticale, mais là où on descend.
En fait, les verticaux, il y en a deux, une tour escaladée et un autre en chute libre où il faut
voilà,
éviter les ronces, tout ça.
Et ensuite, il y a encore un autre niveau horizontal, mais là, qui se fait uniquement à l'écran tactile. Donc, enfin, on peut jouer à deux avec un joueur qui contrôle le personnage, mais quand on joue tout seul, c'est uniquement au tactile, le personnage avance tout seul.
C'est le même principe que ce qu'il y a dans la démo en fait.
Non, parce que enfin si, c'est le même principe, ouais. Mais c'est-à-dire que le personnage là va vraiment vite, que dans la démo le truc où tu fais au tactile,
oui, le truc va super lent, oui,
c'est ouais, donc c'est un peu chiant et tout, alors que là ça devient vraiment intéressant parce que effectivement au stylet t'as plein de choses à faire et t'as pas trop le temps de souffler, quoi.
Et, ah oui, ça c'est soutenu et...
Voilà, et puis plus ça va, plus c'est soutenu, quoi. Et en fait, après, donc c'est choisi aléatoirement. Chaque joueur, t'as un nouveau défi, enfin deux même avec celui qui est bloqué, mais ça va piocher parmi un de ces quatre niveaux-là aléatoirement. Le niveau en lui-même est généré aléatoirement. Donc,
d'accord, donc le niveau change tous les jours.
Voilà, le niveau change vraiment tous les jours.
Voilà, le défi journalier, il change tous les jours. Voilà,
c'est un défi journalier, quoi.
Et après, il y a l'objectif du défi.
C'est un défi journalier qui change tous les jours, c'est original.
Ah, c'est chaque jour.
Je crois qu'ils ont déposé un brevet là-dessus.
et donc après, t'as l'objectif du défi qui est soit d'aller le plus loin possible, soit de récupérer le plus rapidement possible une certaine quantité de lumps, soit atteindre un point précis du niveau, genre 250 mètres, en le moins de temps possible. Et ça aussi, c'est choisi aléatoirement chaque jour.
Voilà.
D'accord. Du coup, défis changent chaque jour et ça amène pas mal de variétés.
Voilà. Et il y a un défi qui change chaque semaine. Et ce qu'il y a de très émulant, c'est qu'on commence en fait avec pour débloquer les modes. Ça, on a accès au journalier, au défi journalier hebdomadaire de niveau basique. Alors, il y a le mode hardcore qui s'appelle le mode casse-cou, qui lui nécessite en fait d'atteindre un certain niveau de génialitude. C'est comme de l'XP, enfin avec des points d'expérience et un niveau. Et
génialitude, terme bref.
Oui, probablement. Et alors l'XP, L'XP, on la prend comment? L'XP, on la prend en remportant des coupes, et les coupes, elles sont décernées en fait. De bronze si t'es une bille, t'as une coupe d'argent si t'es une bille un petit peu moins un bille, une coupe d'or si tu sais bien jouer, et si t'as des coupes de diamant, c'est que t'es vraiment un PGM de ouf. Et donc grosses coupes rapportent plus d'XP, et donc t'atteins plus vite les niveaux de génialitude supplémentaires. Ouais. Et donc
ça rejoint les niveaux de StarCraft 2 où tu commences par être coupe papier, coupe plastoc, et puis après tu peux augmenter un peu, c'est ça.
Coupe diamant, c'est le maximum. 2, si tu veux, ouais. Et alors, ce qui est vraiment de très intéressant, addictif au, ouais, voilà. C'est vraiment très intéressant et addictif au mode défi, c'est que tu peux avoir les fantômes des joueurs qui ont réalisé un temps juste un petit peu meilleur que le tien. Et donc, chaque fois que tu bats ces fantômes-là, tu as les fantômes des gens meilleurs, quoi. Et donc, t'as tout un système de classement, de ranking en ligne. Et voilà, et c'est d'accord, assez.
C'est comme un. C'est un ranking européen ou c'est un ranking mondial?
Mondial.
C'est mondial.
Mondial.
Worldwide ranking.
Donc tu dirais que c'est bien foutu les potes et qu'il faut y jouer, quoi.
Ouais, parce que au-delà de. Tout est bien foutu en fait, de l'interface au système de classement, ouais, tout ce que tu veux, machin.
C'est pour ça que je disais que je me pose vraiment la question si c'est un truc prévu de base ou pas, parce que le concept en lui-même. Le principe du défi journalier de niveau aléatoire.
Dans le tout premier trailer d'avril 2012, on voit des fantômes. Un Rayman qui court avec d'autres fantômes.
Ah ouais?
Donc j'imagine qu'il y avait déjà quelque chose dans ce sens-là. On voit ça.
Peut-être. Alors, c'est vraiment un concept. Le concept en lui-même de tout ça n'est pas révolutionnaire, mais pour autant, c'est un truc qu'on a rarement vu.
D'accord. Ce que tu es en train de dire, c'est la mise en musique, enfin pour un jeu de plateforme, en tout cas, c'est étonnant, mais il me semble que les fantômes légèrement un peu meilleurs que les tiens avec un ranking mondial, enfin, t'avais des trucs comme ça dans des Need for Speed ou des
Test Drive,
comme ça, je veux dire.
Je parle pas tant des fantômes, je parle juste du principe de défis journaliers et de niveaux aléatoires. Moi, je rapproche ça avec... moi, ça m'avait beaucoup fait penser à ça au début, surtout parce que c'était au début, on avait accès juste au niveau qui était uniquement tactile. Et à Yoshi Touch'n Go, où le mode le plus intéressant de Yoshi Touch'n Go, c'était le marathon, où c'était pareil, c'était de l'aléatoire et il fallait aller le plus loin possible. Et du coup, là, c'est pareil, c'est de l'aléatoire, sauf que t'as un nouveau défi chaque jour, et là où c'est intéressant ce système de défi journalier, c'est que du coup, t'as un classement qui s'arrête, qui ne dure que sur 24 heures. Et donc, en général, quand t'as des classements, t'affrontes des mecs qui sont complètement des tarés, qui jouent des heures et des heures, et là, comme ça se limite sur 24 heures, ça permet de pouvoir bien se classer sans forcément passer sa vie dessus, même s'il faut quand même insister.
Mais c'est pas comme les ladders de, je reprends le parallèle, hein, mais les ladders de Blizzard où si tu joues pas 24/24/7/7 pendant 6 mois, tu peux pas te classer, quoi. Là tous les jours, quelqu'un pourrait se classer. Si t'es un temps soit peu bon. Exactement. Et que les très très bons jouent pas ce jour-là, il y a moyen que tu te classes.
Exactement. Voilà. D'ailleurs, on y arrive très bien.
Oui, voilà.
Oui, c'est alors là, la Dojo Team est très bien placée.
Je veux dire, moi, l'autre jour là, où j'avais réussi à rentrer dans le top 10, ça m'est jamais arrivé de rentrer dans le top 10 d'un jeu, parce qu'en général, Ouais, vraiment être à, fou, fond, à fond dessus. Ouais,
ouais, voilà. Ouais. Si tu prends par exemple Super Meat Boy qui reprend aussi tout un, enfin qui reprend aussi quand même, un... c'est aussi un jeu qui nécessite une certaine habileté pour vraiment bien jouer. T'as aussi le classement avec tes amis mondial et tout ce que tu veux, et c'est de la plateforme. C'est vrai que ça fait penser directement à ça, mais c'est vrai que le côté, vraiment le fait d'avoir le défi journalier qui est généré aléatoirement, c'est ça chamboule tout, et t'y reviens tous les jours pour voir c'est quoi le défi, tes potes qu'est-ce qu'ils vont faire comme temps, et voir la pâtée, si de la pâtée que tu peux leur mettre ou subir, quoi.
D'accord. Donc voilà. au niveau damage control, c'est plutôt pas mal ça. Donc ça veut dire que globalement, alors, ils ont quand même réussi à vous accrocher, et vous ouais, auriez peut-être fait la gueule en septembre, mais là vous allez l'acheter en septembre.
Alors moi, j'ai déjà acheté, puisqu'Amazon a fait une promo jeu Wii U acheté égale le deuxième au moitié prix. Et d'ailleurs, je l'ai acheté en fait la veille de l'annonce du report.
Mais
pour
haine.
Le coup, j'étais pas dégoûté.
Ah ouais, donc quand même... tu l'as déjà payé en fait, quoi.
Ah ouais. Non, je l'ai pas, ça s'est pas encore débité. Mais
pour le coup, encore l'annuler.
Moi, il pouvait encore le reporter de 2 ans, c'était pareil. Je veux dire, mon jeu, il m'a coûté 22,44€. Tu vois, il peut sortir n'importe quand, je suis content, quoi, tu vois.
C'est comme l'histoire du mec qui avait payé pour réserver son Duke Nukem
qui avait encore son vieux ticket qu'il a pu utiliser. Ça, c'est épique quand même.
Mais t'inquiète pas, je pense pas qu'il mettra 10 ans à sortir celui-là.
Ouais.
Là, ce serait vraiment le foirage ultra légendaire.
Sur le forum, il y a eu des sortes d'appels au boycott du jeu. Jamais j'y toucherai. Ouais. J'ai un nom en tête, mais je suis pas sûr de moi, donc je vais pas le citer. Hein. Je vais pas citer Golden Cube. Et donc. Et ça a l'air d'être quand même un des premiers à y jouer là, et à bien kiffer sa race. Donc,
Mais ouais, parce que en fait, enfin voilà, c'est que c'est là où on peut quand même reconnaître qu'effectivement c'est quand même une bonne excuse de la part d'Ubisoft. Je dis ça sans ironie, mais vraiment une excuse légitime, c'est que ce truc-là pourrait être payant. Pour moi, il serait payant et il mériterait qu'on l'achète, quoi.
Ouais.
Et au final, on l'a gratuitement.
Au-dessus de 8€ quand même, quoi.
Bah écoute, je te dis, moi j'en suis à 34 heures de jeu là-dessus. C'est le jeu auquel j'ai plus joué sur la Wii U et sur lequel je m'amuse le plus.
Ouais, carrément.
Et voilà quoi.
C'est dire la catastrophe actuelle dans laquelle est la Wii U.
Oui, aussi, non. Mais bon.
Ou alors dire la qualité de ce truc-là.
Non, mais en même temps, j'ai pas que la Wii U, j'ai d'autres consoles. Non, jeux à jouer et pourtant je m'éclate là-dessus.
Pourtant, je vois ça, c'est pareil pour moi, quoi. Carrément. Mais moi je trouve pas que ce soit vraiment. Enfin, je veux dire, autant ce mode défi, il est excellent, hyper addictif, et voilà, à la limite, ils sortent pas le jeu, on est content avec le mode défi, tellement c'est bon, quoi.
Ouais, mais, voilà, non, mais c'est
autant, je trouve que c'est, enfin, le damage control, je trouve que, à partir du moment où l'excuse pour le reporter est quand même, voilà, le jeu est fini, on le reporte, bon, tu vois, c'est quand même assez casse-gueule, quoi. D'autant plus qu'il y a des joueurs, qui vont pas le prendre sur Wii U, du coup, qui vont le prendre sur une autre machine, donc bon, après,
oui,
peu importe, les gens vont en profiter,
Ubisoft
mais ils auront pas la version supérieure, tu vois.
Ouais, non, mais ça, Ubisoft s'en fout, je veux dire. Enfin, faut aussi, parce que voilà, on leur a beaucoup gueulé dessus, et c'est vrai que la façon dont ça s'est passé est assez scandaleuse, aussi bien pour les développeurs que pour les joueurs, parce que ça a été fait à la dernière minute, et que c'était... Enfin bon, voilà, on va pas revenir là-dessus, mais faut aussi reconnaître que ça partait du fait que c'est quand même un jeu sur lequel il était quand même pas mal, sur lequel ils espéraient en vendre pas mal, et qu'avec les ventes de la Wii U, faut comprendre qu'ils se sont dit, bah là on est dans la merde parce que le jeu il va pas se vendre aussi bien qu'on le voudrait, il faut qu'on le sorte sur les autres consoles. Et à partir de là, en le sortant sur Wii U en février et en le sortant sur PS3 Xbox fin août, et bah ils auraient été obligés de faire 2 campagnes marketing différentes, ce qui leur aurait coûté 2 fois plus cher.
Ouais, mais en même temps, est-ce que ça aurait empêché
avec ça, mais parce que les gens qui l'achètent sur Wii U et il y en aurait eu à peu près autant que de consoles, parce que c'est sans doute le seul bon jeu de la console.
Voilà, c'est la période creuse. Il y a rien à se mettre sous la dent sur Wii U pour le moment.
Depuis le lancement, il y a pas grand-chose. En soi, le fait que les gens l'achètent sur Wii U et le montrent aux potes qui eux vont s'acheter une PS4 et une Xbox Infinity, il paraît que ça va s'appeler. C'est de la pub en soi, en fait. C'est que c'est du bouche à oreille, et les mecs vont l'acheter sur Wii U, et après ils le montrent au pote, et puis le pote il l'achète en même temps que sa PS4, quoi.
Mais ça, c'est ce que, enfin voilà, ce que tu cites, c'est un pari.
Le report aussi, hein.
Est possible. Non, le report c'est la solution de sécurité.
C'est un pari qui a quand même marché de temps en temps. Je recite l'exemple, mais je pense que vous vous rappelez tous que sur N64 il y avait très peu de jeux. parce que les éditeurs tiers l'avaient complètement boudé. Du coup, chaque fois qu'il y a un éditeur qui sortait un jeu même moyen, il faisait un carton et tout le monde l'achetait.
Ouais, mais si t'arrives
à une situation dans laquelle pour chaque console tu vends un jeu, au final t'en vends quand même pas mal, quoi.
Ouais, mais alors,
un jeu de cette qualité.
Le côté chaque console tu vends un jeu, c'est un peu du fantasme parce que ça n'arrive jamais vraiment.
Et tu finis peut-être par être un long seller.
Ouais, mais le problème, c'est que le contexte est différent parce que les longs sellers, c'est un truc qui existe de moins en moins. Et les jeux maintenant, à part Nintendo qui arrive à bien se débrouiller là-dessus, ils se vendent vraiment au moment de leur sortie. Enfin, on l'a vu là récemment avec Tomb Raider, où une semaine après sa sortie, Square Enix annonce que le jeu est un échec commercial. Enfin, même s'ils ont réussi à en balancer plus de 3 millions, ça n'a pas atteint nos objectifs. Et genre deux semaines avant, tu vois, ils n'attendent pas de voir ce que ça va faire sur la.
Ouais, ils s'ouvraient déjà les veines, quoi.
Et maintenant, c'est comme ça, la situation est comme ça. Les jeux, si ça marche pas à leur sortie, après, les magasins, ils en rachètent pas, quoi.
D'ailleurs, j'en profite, puisque tu parlais de Tomb Raider et de Square Enix, pour évoquer un petit scandale rapidement.
Là, on est déjà à la bourre, là.
On est déjà à la bourre. D'ailleurs, bref,
le report. Bon, Rayman Origins, quand il est sorti, même pas deux semaines après, son prix était déjà cassé en deux, parce qu'il se vendait pas, et au final, il s'en est quand même vendu 2 millions.
Oui, mais avec le prix cassé, et encore une fois, moi je te dis, autant sur Wii, t'arrivais encore à le trouver, mais sur PS3 et sur Xbox, 3 mois après sa sortie, ça devenait difficile de le trouver. Tout simplement parce que moi je peux te le dire, moi qui ai bossé à Auchan, même un mois après sa sortie, on pouvait plus en commander.
Oui.
La centrale avait arrêté. Et ça, bon, après, c'est un autre problème, hein. C'est un problème qui touche, c'est une erreur parce que c'est un jeu qu'on aurait pu continuer à vendre vu comment il est bon. Mais le problème, c'est que c'est la situation actuelle et que les éditeurs sont obligés de faire avec ça et que dans la tête d'Ubisoft, c'est vraiment, la Wii qui se vend pas assez. Le jeu aurait été une catastrophe commerciale, il faut le sortir sur les autres supports, et dans ce cas-là, le problème de la campagne marketing qui aurait coûté deux fois plus cher si la version Wii U et les autres versions ne seraient pas sorties en même temps.
Il y a Jody Rogua qui nous dit sur Twitter que compter sur les possesseurs de Wii en tant que prescripteur pour éviter une campagne PS360, non.
C'est pas faux, de toute façon.
C'est pas faux, genre, je reconnais, mais c'est un petit peu exagéré, je pense.
Faut bien avoir conscience que la Wii U se vend vraiment mal, quoi. Et pour l'instant, c'est quand même plus dans l'intérêt d'Ubisoft d'attendre que la Wii U se vende un peu mieux, et en plus de profiter des autres supports pour sortir leurs jeux, pour qu'ils espèrent des meilleures ventes, quoi.
Ouais.
Mais tu dis que c'était un pari de faire cette solution-là, mais de toute façon, c'était un pari de faire un jeu de lancement aussi. Dans ce cas-là, aucun éditeur tiers ne fait de jeu de lancement parce que c'est un pari qui est pas sûr.
Ah, mais
Et il y a aucune console qui va se vendre parce que il y a aucun jeu qui sent dessus, quoi.
Mais
il y a pas de console au lancement, donc il y a pas de jeu, donc il y a pas de console.
Non, mais un jeu de lancement, c'est un pari de toute façon. Et si Ubisoft aussi a misé sur la Wii U et l'a visiblement regretté après. C'est parce qu'ils avaient à la base misé sur la Wii en faisant Restyle, le premier qui était quand même complètement raté et qui s'est malgré tout vendu parce que ça a été un jeu de lancement d'une console qui a cartonné dès sa sortie. Et c'était un pari qui là a réussi, et là pour le coup, la Wii U ça a pas réussi. Zombie U, je pense pas qu'ils soient contents des ventes.
Ça a dû se vendre quand même relativement bien, mais effectivement ils sont peut-être pas satisfaits des ventes, ça je peux le concevoir.
Ouais, pas à 100% quoi. Pas à 100%. Mmh. Donc, avec. Mmh. En préparant l'émission, on avait noté, finalement, Rayman Legends c'était un jeu exclusif à la base, mais non. Puis il va y avoir un mode exclusif, donc sur lequel on joue maintenant, et finalement, on ne sait pas s'il restera, puisque il suffirait que le jeu soit porté sur les prochaines consoles de Microsoft et Sony, et qu'il y ait un support tactile pour pouvoir faire exactement le même jeu. Alors on avait dit
après ils peuvent l'amputer de la partie tactile,
je pense à la base, c'est ce que je pense qu'ils risquent de faire, mais il reste quand même des possibilités d'ouverture d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors on avait dit, alors qui osera le trailer exclusif après toutes ces questions. Et là, je dis que Nintendo l'a déjà fait, en fait, le trailer exclusif.
Oui, c'est pas pareil.
Bon, ouais,
tu trolles.
Mais c'est fait pour. Quand même un petit peu. Bon. Je propose qu'on termine.
Il faut qu'on termine, parce que là, on est quand même.
Il y a pas mal de gens qui spignolent devant les scores que Oscar, Mecton, Golden Cube et moi faisons. Et je propose qu'on termine en leur donnant peut-être 2-3 petites astuces sur comment aborder portions
selon les
trucs.
Si vous voulez donner 2-3 astuces, mais après on termine.
Ouais.
Sinon, on peut peut-être tout simplement leur recommander d'aller sur le forum parce que les astuces, c'est surtout pour le. Enfin, les astuces sont surtout intéressantes pour le mode où on doit faire le plus rapidement. Atteindre la ligne d'arrivée le plus rapidement, et ça Golden a...
Pour la collecte de l'UMS, il y a quelques petits trucs aussi, je sais pas si t'as vu sur le niveau en chute libre, donc avec la collecte de l'UMS, t'as vraiment, quand tu arrives à tomber au bon moment, en fait quand tu es en chute libre, et les l'UMS ils sont pas directement là, tu vois ils apparaissent petit à petit,
oui.
et quand tu as un bon timing, tu arrives à apparaître au moment où ils sont tous groupés et pas encore répartis en courbe où là ça te fait perdre du temps, tu vois à peu près ce que je veux dire.
Oui, non, ça c'est vrai que c'est toi le spécialiste sur ce type de niveau là et que t'en as pas parlé sur le forum.
Non, effectivement, parce que j'ai pas le temps.
Tu viens d'en parler sur le forum, parce que c'est quand même plus pratique un forum pour parler.
On va faire un full forum, ouais, ce sera vraiment beaucoup plus simple. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui sont gauchers à part moi?
Non, tu es le seul à être défaillant.
On est 15% sur la planète à vouloir te la mettre, alors fais attention.
Il y a aussi 5% de rook.
Alors, je sais pas, c'est peut-être pour ça que je suis un peu moins fort sur le niveau tactile.
Mecton est gaucher, il dit sur le
faudra que tu témoignes avec moi, Mecton. C'est peut-être pour ça que je suis un peu moins fort au niveau tactile, parce que le scrolling va vers la droite, et donc plus on avance, plus on doit gérer les obstacles qui sont à la droite de l'écran, et donc avec ma main gauche, je traverse quasi tout l'écran pour...
Tu te bouches une partie de la vue.
Et sur certaines phases où il faut vite à la droite puis revenir à gauche, c'est pas évident, quoi. Et je pense que les droitiers ont moins ce problème-là, vu que la majorité des actions se situent plus sur la droite de l'écran que sur la gauche. Donc je dois jouer un petit peu avec le poignet, un petit peu cassé et courbé en haut de l'écran. C'est pas du tout une position très confortable. Et donc je pourrais peut-être pas faire l'or et le diamant sur tous les...
Je pense qu'effectivement c'est un problème de gauche. Enfin c'est un problème de gaucher malheureusement. Le problème des jeux gaucher-droitier, on l'a déjà vu sur DS où t'avais le même problème. Faire un jeu gaucher-droitier c'est évident.
Ouais parce que t'as pas le double stick.
C'est une malformation et voilà, t'assumes.
Je te merde. Alors nous on kiffe à mort. Mais en fait on kiffe à mort, mais moi je me demande quand même, parce que le classement est global. Et quand tu vas voir le classement global, tu vois qu'à l'heure actuelle, là pile au moment où on parle, il y a 81 014 personnes qui sont qui jouent au jeu. Et est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu finalement? Parce que Nintendo a quand même annoncé que la Wii U elle était bien connectée pour la plupart des foyers, quoi.
Ouais, non, c'est peu. Après, faut prendre en compte le fait qu'il n'est pas sorti au Japon.
Ah, ça y est.
Pas encore sorti au Japon. Il le sera probablement puisque dans les trailers on voyait des drapeaux japonais. Donc
ouais.
Outre-Atlantique,
elle est disponible de toute façon, vu qu'on voit des drapeaux ricains de temps en temps.
Mais pas sur l'eShop japonais, et ça se fera probablement plus tard.
Alors,
ça limite un peu, mais ça me paraît peu quand même pour un truc gratuit.
J'ai appris avec grande fierté que j'étais 85e sur 80 000. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir. Oscar, je crois qu'il est 100 et quelque chose, ce qui est plutôt très bien aussi. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment cartonné sur certains niveaux, vu que j'ai pas fait l'or partout. Oscar est 188e.
Oui, mais en fait, moi, le truc où je suis doué, c'est des trucs où il faut aller le plus loin possible.
Ouais.
Et là, sur les derniers défis journaliers, on n'en a pas eu trop eu. D'ailleurs, si je pouvais mettre malgré tout une critique sur ce jeu, ce qui est un peu con, c'est que le type de défi chaque jour est vraiment fait aléatoirement. Et il n'y a pas un système de roulement, ce qui fait que là, je suis un peu en manque de défis où tu dois aller le plus loin possible.
Ouais.
Et voilà, j'aurais trouvé que ça aurait été mieux de faire un système de roulement.
Il a encore tombé que 2 ou 3 fois celui-là, je pense.
Il y a le truc où tu dois aller le plus loin possible avec sur les niveaux horizontaux, on l'a encore jamais eu celui-là. Et le truc où tu dois aller le plus loin possible sur les niveaux verticaux en hauteur.
On l'a pas eu non plus.
Alors en descendant, on l'a pas encore eu. En hauteur, on l'a eu une seule fois. C'était sur le.
C'était en hardcore, non?
C'était en hardcore le premier jour.
Moi, j'avais pas encore accès à l'hardcore, au hardcore dès le premier jour.
C'était le premier hardcore où on pouvait avoir accès. Et là, on était qu'une centaine à y avoir accès à ce moment-là. Donc
Ouais.
Voilà, j'attends que ceux-là, on en ait un peu plus souvent, parce que moi, c'est ceux-là qui m'amusent vraiment, quoi.
Je pense qu'on va réfléchir à la question, mais je pense que vu que le jeu ne sort que le 29 août, c'est vrai qu'on va peut-être bien se faire un petit article de PGM pour, avec des schémas explicatifs pour expliquer comment bien jouer
ouais,
à ce truc-là.
Aussi...
Moi, en fait, je voulais me filmer, tu vois, mais
Non, faut pas que tu filmes, c'est dégoûtant.
Enfin, pas moi, me filmer le gamepad, quoi, tu vois.
Non, mais de toute façon,
on pourrait peut-être en faire une aussi juste un article, parce que ce qui est un peu con, finalement, dans cette histoire, c'est que, étant donné que le jeu est gratuit, forcément, la presse ne fait pas de test.
Oui. C'est une remarque absolument pertinente.
On en parle pas des masses, quoi. Enfin, nous, on en parle beaucoup, mais ouais. les gros sites n'en parlent assez peu, vu que.
Carrément pas. Je peux te dire que sur les forums Nintendo, les gens sont à bloc. Ailleurs, c'est mort, quoi.
Ouais, voilà. Et c'est assez logique en même temps. Parce que...
Oui, ça, c'est grâce à nous, ça.
On va résoudre ce problème.
C'est logique, vu que c'est gratuit, forcément, tout le monde devrait le télécharger sans se poser de questions, mais du coup, on n'en parle pas trop, quoi. Et c'est un peu con pour la qualité de ce jeu.
Ouais.
Donc, il faudra qu'on en reparle, mais plus tard.
Ouais, je pense que pour clôturer, on peut dire.
Je vous arrête. Pour clôturer, officiellement, je vous arrête. Fini.
Pour clôturer, et c'est Bling qui m'en donne l'idée sur Twitter, on peut dire que Michel Arcel a failli quitter Ubi après l'affaire du report, mais je pense que c'était lié déjà à d'autres choses aussi, d'après ce qu'on a pu lire ici et là.
Ouais, alors... Ça...
Non, stop.
Bon. Non, je savais que j'allais relancer Oscar. Vas-y, Oscar, dis-le.
Tu le feras la prochaine fois, c'est fini.
Faut qu'on arrête.
Faut qu'on arrête, parce que là, la console de mixage va finir par planter, et là, on sera vraiment arrêté. Voilà. Alors, messieurs, comme c'est une grande tradition, je vous demanderai le mot de la fin, donc Cyrard, le mot de la fin.
Cahuzac.
Médus, le mot de la fin.
Nintendo Joe FR.
Oscar, le mot de la fin.
Bateau.
Moi, je pense que je vais aller pour Chlamydia. Voilà.
Ah, c'est pas mal.
Ouh, celui-là, il faudra que tu nous l'expliques.
Tu iras chercher sur Google Images et tu pleureras.
Chlamydia, c'est ça? Attends, gros champignon.
Voilà. Donc, eh bien, le dojo bar qui était très 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 long cette semaine.
Oh.
C'est pas
ça. Ça s'écrit avec CH et Y, les gens. Chlamydia.
Donc, le dojo bar qui était très 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 long semaine.
Oh, mais quel bordel!
On vous dit à la semaine. Au revoir tout le monde.
Oscar, on reste pour jouer à Rayman.
Allez, c'est bon. Au revoir tout le monde.
Salut.
Ciao.
Salut.